Dans le parc naturel régional d'Armorique, on s'intéresse aussi à l'alimentation de la fourche à la fourchette. Forcément, sur un vaste territoire comme le nôtre, il y a des terres, des exploitations agricoles, il y a des professionnels de la transformation des produits, de la cuisine, de la restauration. Le parc compte d'ailleurs une chargée de mission agriculture, Solène Larzul, chargée de mission développement agricole et alimentaire, et puis une chargée de mission développement local, agriculture et forêt, Claire Amil. Elles ne sont pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Thibaut Thierry, le directeur du développement. Comme ça, ça chapeaute. J'imagine que vous chapeautez tout ça. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le parc prépare actuellement sa nouvelle charte. On en a déjà parlé plusieurs fois. Ça sera la période de 2024-2015, c'est ça, 2030?
Non, 39.
39, oui, 2040, moi je ne sais même pas compter. Ouais. Merci. Et dans ce cadre, il y a notamment des ateliers qui impliquent la population. Chaque jeudi en ce moment, et jeudi dernier, c'était l'agriculture et l'alimentation. Alors, qu'est-ce qui s'est dit dans cet atelier, pardon.
Effectivement, on a vraiment pour volonté de pouvoir associer la population, mais aussi les partenaires du parc, qui sont très nombreux sur toutes les thématiques sur lesquelles on intervient, pour écrire cette fameuse charte, qui est un peu notre fil directeur, on va dire, pour les 15 prochaines années. Sur la période 2025-2040, voilà. Donc c'est comment on se projette finalement à 2040 sur le territoire du parc. Et donc effectivement, il y a plusieurs temps. En ce moment, on a des temps de concertation, peut-être davantage avec les partenaires et avec les élus du territoire du parc. Et puis aussi des temps qui seront davantage dédiés aux habitants, des temps immersifs, voilà, qu'on évoquera juste après, je pense. Et donc ce qui s'est dit, par exemple jeudi dernier, sur une thématique agricole et alimentation, c'était tout d'abord de réfléchir un peu aux enjeux du territoire, aux défis que l'on a à relever, qui sont assez nombreux sur ces questions agricoles et alimentaires. Les futurs souhaitables aussi pour 2040. Si on se projette sur une neutralité carbone, par exemple, du territoire du parc naturel, comment l'agriculture intervient? Sachant qu'on sait qu'en Bretagne, l'agriculture, c'est plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la possibilité de capter du carbone via notamment les systèmes herbagers que l'on a sur le parc, puisqu'on a cette grande chance d'avoir un capital de prairies naturelles très important.
Et donc, système herbager, ça suppose plutôt de l'élevage bovin.
Voilà, exactement. Ouais, c'est l'élevage bovin, ovin, laitier ou allaitant pour la viande, mais effectivement qui, de leur action, finalement, entretiennent ces espaces. Donc la question de l'émission de carbone, il faut bien la réfléchir en termes de bilan, voilà, donc sans être trop technique, mais voir ce qui sort, est-ce qu'on peut capter aussi, séquestrer par les prairies elles-mêmes, mais aussi par les pratiques des agriculteurs. Donc on a discuté de ces questions jeudi dernier. On a aussi abordé quand même une question qui est assez difficile sur la Bretagne, mais je dirais presque au niveau national. C'est quand même la perte d'actifs agricoles. Et donc les gros enjeux qu'on a en termes d'installation et de transmission dans les 10 années à venir, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a à peu près la moitié des chefs d'exploitation qui ont plus de 50 ans. Donc on sait qu'on aura des gros enjeux de transmission de ces fermes si on veut pérenniser quand même des systèmes. A fortiori pour le parc, l'idée c'est aussi de pérenniser des systèmes qui sont les plus agroécologiques possibles, qui vont permettre d'entretenir et d'intervenir par exemple sur les prairies que j'évoquais juste avant, mais au-delà des prairies c'est aussi toute la gestion et la préservation du bocage, des haies aussi qui participent à cet effort de séquestration. Et puis bien entendu, et peut-être même avant tout, l'agriculture c'est aussi pour l'alimentation, l'idée étant de voir dans quelle mesure on peut vraiment, par le biais de l'agriculture, du territoire du parc, pouvoir alimenter les habitants du territoire, même si aujourd'hui, effectivement, l'agriculture du parc, c'est une agriculture de production qui va bien au-delà des limites du parc naturel, mais voir comment on peut relocaliser une partie de cette alimentation par le biais de différents biais.
Donc cet atelier, c'était surtout le public, c'était surtout des agricultrices, agriculteurs, c'est ça?
C'était surtout des partenaires institutionnels, donc on retrouvait la Chambre d'agriculture, bien entendu, mais aussi le Groupement des agriculteurs biologiques, Terre de Liens, quelques élus du territoire du parc, des acteurs qui sont quand même très concernés par la question.
et plutôt la question agricole, moins sur la transformation, par exemple, c'est ça
Oui et non, parce que la transformation, malgré tout, il y a des enjeux importants. Quand on parle de relocalisation, derrière, c'est l'existence d'un abattoir au fou qui appuie quand même tout un ensemble de filières sur la viande. C'est peut-être des ateliers de transformation qu'on pourrait trouver davantage sur le territoire. Quid aussi de la coopération, on va dire, des acteurs pour faire vivre ces outils, parce que c'est pas toujours évident. Donc, comment les collectivités peuvent prendre une part, comment les agriculteurs assurent aussi une part de cette intervention.
Alors, est-ce qu'il nous faudrait quand même un portrait agricole et agroalimentaire, peut-être, du parc, pour qu'on ait une idée déjà du nombre d'exploitations, peut-être, de leur taille, etc.
Alors aujourd'hui, on a à peu près 650 à 750 exploitations agricoles, selon si on regarde vraiment si le siège d'exploitation est sur le parc naturel. Mais grosso modo, si, même par extension, on peut dire qu'on a presque 1000 exploitations qui interviennent sur le territoire du parc, qui ont au moins une parcelle sur le parc. Ça en fait à peu près une ferme pour 100 habitants. C'est quand même intéressant d'avoir ça en tête. C'est la moitié, on va dire, du territoire du parc naturel qui est concerné par l'agriculture, en termes d'usage des sols, avec une surface moyenne par ferme de l'ordre de 70 hectares, avec bien sûr des disparités importantes, c'est comme toutes les moyennes.
Mais ça peut nous donner. C'est pas énorme, 70 hectares.
Non, ça reste des surfaces qui sont tout à fait intéressantes sur des systèmes familiaux, bien sûr orientés à grande majorité sur l'élevage, notamment sur l'élevage bovin. Lait notamment puisqu'on est quand même un territoire de production laitière très fort sur le parc.
D'où le système herbager, on l'a en fait.
Le tout, c'est de le garder, effectivement. Mmh. Donc, bien sûr, c'est par rapport à... On a des politiques qui, depuis de nombreuses années, interviennent pour préserver ces systèmes prairiaux, les haies. Donc, le parc a pu initier. Aujourd'hui, c'est le relais aussi des syndicats de bassins versants, comme les PAGA, comme le syndicat de bassins de l'Élorne aussi, qui interviennent sur cette dimension. À la faveur des mesures agri-environnementales et climatiques. Alors, c'est un peu technique, mais l'idée, c'est un contrat qui est passé entre ces structures, l'État et les agriculteurs sur des engagements, on va dire, en termes d'intervention sur les prairies notamment, à la fois pour des enjeux de qualité de l'eau, mais aussi pour la biodiversité.
Donc notamment ça passe par le rétablissement du bocage ou opérations de ce type, c'est ça,
enfin, le rétablissement et puis bien sûr le maintien, maintien de ce capital. De même que les prairies permanentes qui sont quand même des puits de carbone à mettre au même niveau que des forêts qu'on peut avoir en Bretagne.
Donc
on en fait un enjeu vraiment indispensable. Donc c'est vrai que derrière se pose la question de l'élevage, qui est par ailleurs très émetteur de méthane. Donc il faut trouver un bon équilibre dans tout ça.
Ouais. Et l'abattoir, qu'est-ce qui se dit sur l'abattoir du fou les éleveurs ou les agriculteurs, en gros, qu'est-ce qu'ils en disent?
Il se dit que c'est un outil qui est indispensable à la survie et au bon dynamisme des filières, notamment des filières en circuit court. On est bien sûr très intéressé par de la vente directe, de la vente à la ferme, etc. Mais il faut derrière les outils pour permettre à ces éleveurs, sans aucune affiliation à un abattoir privé ou autre, de pouvoir abattre leurs bêtes, de trouver derrière un bon transformateur pour assurer la découpe de la viande, quand ils ne le font pas eux-mêmes d'ailleurs. Et puis effectivement, derrière, de pouvoir proposer aux habitants du parc des viandes de qualité, par exemple.
Essentiellement de l'élevage bovin laitier, c'est donc des fermes. Quelle est la proportion? Alors, je ne sais pas, de bio, de conventionnel. Et est-ce qu'éventuellement il y a une différence aussi avec l'ultra-industriel, vous avez fait cette échelle-là peut-être?
Oui, alors, la situation d'aujourd'hui hérite, on va dire, de systèmes bretons qui ont été largement diffusés après-guerre. Aujourd'hui, on a un élevage conventionnel qui est dominant. Malgré tout, on a quand même aujourd'hui 20% des fermes qui se sont engagées dans l'agriculture biologique. Ce qui représente à peu près 13% de la surface agricole utile du territoire, donc ce qui est quand même un élément très important hein, qui est bien au-delà des seuils nationaux ou même régionaux. Donc voilà, on sait aussi qu'on a cette richesse sur l'agriculture biologique. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir à minima maintenir, bien sûr, mais de pouvoir développer les surfaces qui sont aujourd'hui conduites en agriculture biologique.
Et c'est relativement diversifié, en fait, comme mode de production, malgré tout, même s'il y a une majorité en bovins laitiers.
Oui, alors il y a de l'élevage, mais on va retrouver toutes les formes, toutes les productions hein, sur le territoire de façon assez diversifiée, dans une moindre mesure, le maraîchage, par exemple, hein, qui est quand même assez moins présent, ou alors sur des beaucoup plus petites structures.
On a l'impression qu'il est très présent, parce que comme c'est des petites structures, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, non.
Quelquefois, ils ont 1-2 hectares, simplement. Hein, quelquefois, d'autres en ont davantage. L'élevage laitier représente quand même la plus grosse dimension, quoi.
Et on a peut-être de plus en plus, enfin j'ai l'impression, et c'est peut-être une fausse impression, de l'élevage ovin. Est-ce qu'on a de l'arboriculture, par exemple, qui commence à poindre?
Oui, alors sur l'élevage ovin, on a quelques éleveurs qui sont engagés sur cette production. Ça reste quand même une production assez faible sur le territoire si on compare à l'élevage bovin. Hein. Malgré tout, il est présent et on voit aussi qu'il peut apporter aussi des choses vraiment intéressantes sur le territoire, notamment dans la gestion de certains espaces naturels. Hein. On en a beaucoup parlé dans les monts d'Arrée. Hein. On sait que...
Contre les incendies, notamment.
Oui, par exemple. Même si l'élevage bovin peut tout à fait y participer également. On a ces productions. Sur d'autres productions, l'arboriculture, oui, dans une petite dimension, cela dit.
C'est pas encore une grosse tendance de fond. Enfin, il n'y a pas encore de.
Même si,
on
sait que.
De nouvelles productions qui apparaissent, quoi, qui n'existaient pas il y a quelques années.
Non. Pas vraiment. Après, la production de pommes, voire de poires, elle est quand même intéressante à valoriser aussi, comme une ressource locale. Après, à ma connaissance, on a un éleveur simplement. Qui est vraiment engagé sur les cultures de légumineuses, qui, on en entend beaucoup parler, prendront une part importante dans l'assiette, de plus en plus importante.
Pour remplacer la viande un peu, notamment.
Oui, remplacer, apporter,
pour qu'on en mange un peu
moins. Sur des protéines végétales, effectivement. Mmh. Donc ça, c'est des productions qui sont aujourd'hui peut-être encore des productions niches, qui sont aussi liés, on va dire, à la situation de la Bretagne, quoi. C'est-à-dire qu'on on peut pas forcément produire les mêmes lentilles qu'au puits.
Oui, ça dépend du climat, des choses
exactement.
Comme ça.
Mais malgré tout, c'est quand même intéressant de réfléchir aussi à ces cultures. Il y a des réflexions au niveau régional pour aller plus loin, justement, sur la production de protéines végétales à destination humaine.
L'atelier que le parc a mené récemment sur l'agriculture et l'alimentation, vous évoquiez donc la question du carbone. Est-ce qu'il a été question de l'eau qui devient un sujet des menaces éventuelles de sécheresse ou...
Oui, tout à fait. Oui, c'est arrivé très vite dans les débats. Donc, même si on aura aussi d'autres temps de concertation qui seront davantage ciblés sur l'eau, mais oui, ça, bien sûr, c'est une préoccupation importante que l'on peut avoir par rapport à ce que l'agriculture nécessite, mais aussi dans l'idée d'un partage de l'eau entre les usages. Et donc ça, c'est si on élargit un petit peu au-delà même de l'agriculture, comment on arrivera à tenir mieux compte de cette ressource qui peut être fluctuante, effectivement, et à l'avenir qui n'ira pas forcément peut-être dans le bon sens. Donc,
Et à maintenir sa qualité, notamment, puisque...
Oui, alors ça, la qualité, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en Bretagne. C'est vrai que l'aspect quantitatif revient davantage aujourd'hui aussi sur le devant de la scène.
Mais c'est lié, puisque
tout à fait.
Plus on aura une eau de bonne qualité, et plus elle sera disponible. Et donc le parc s'est doté d'un projet alimentaire de territoire, c'est ça, un PAT.
Oui.
Tous les parcs ont un projet alimentaire de territoire ou c'est un choix local ?
Non, alors c'est un choix local. Il y a quand même un ensemble de parcs qui sont vraiment investis là-dessus. Après, il est proposé, en fait, c'est l'État qui propose à toutes les collectivités, quelle que soit leur taille, donc ça peut être même à l'échelle d'une commune, de réfléchir à la place de l'alimentation depuis comme on le disait tout à l'heure, de la fourche à la fourchette, donc comment chaque acteur, on va dire, de l'alimentation intervient à son niveau. Donc nous, on a choisi, notamment pour donner peut-être davantage de cohérence et de compréhension, de lisibilité sur l'action du parc, de pouvoir partir sur un PAT, sachant qu'on a d'autres PAT, donc des plans alimentaires territoriaux sur le territoire du parc. Je pense notamment celui de la presqu'île de Crozon, le maritime par exemple. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble à chaque échelle, de voir quelle est la plus-value de chacun et comment on peut répondre aux grands enjeux alimentaires. Nous, une petite particularité, c'est qu'on on a choisi de rajouter un A à PAT.
PAT.
Oui, voilà, c'est notre
bigre,
notre spécificité armoricaine. C'est aussi pour focaliser aussi pas mal sur les actions agricoles, voilà, qui sont un peu historiques, on va dire, dans l'action du parc. Et c'est vrai que sur la partie plus aval, c'est vrai que des collectivités qui vont maîtriser les questions de restauration collective, etc., seront davantage sollicitées.
Voilà. Et c'est pas, ouais, c'est moins votre
oui,
partie.
Même si on y intervient malgré tout, mais ouais, voilà.
D'accord.
Ce PAT, il est vraiment destiné à réfléchir aux conditions d'un meilleur accès déjà à l'alimentation, avant même de parler d'alimentation de qualité. Hein, mais voilà, l'accès à l'alimentation, on a quand même des publics précaires sur le territoire du parc qu'il faut bien sûr suivre et accompagner. Et puis effectivement, derrière, comment on peut arriver à relocaliser une partie de l'alimentation qui est produite sur le parc, comment on peut sensibiliser aux bonnes pratiques. On parlait éventuellement de végétaliser un tout petit peu plus son assiette, de réfléchir à sa consommation de viande, voilà, même si ce que je viens de dire avant montre quand même que la production de viande est importante sur le parc,
ça, hein, ouais.
Et une vraie nécessité, cela dit, voilà, aujourd'hui il faut réfléchir aussi à notre consommation. Et c'est vrai que notre acte citoyen, il est dans l'assiette finalement. Et c'est ça qu'on doit travailler aussi avec les habitants.
Et nous sommes toujours en compagnie de Thibaut Thierry, le directeur du développement du parc naturel régional d'Armorique, sur la question de l'agriculture et de l'alimentation. Vaste question qu'on explore souvent sur Radio Évasion. Donc on a quand même fait un portrait agricole du parc d'Armorique. On a déjà évoqué les actions qui sont menées par le parc, notamment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur... tout ce qui est du domaine, peut-être pas tout à fait directement agricole, mais que fait le parc en matière d'alimentation plus généralement ? Qu'est-ce qu'il y a à signaler ?
Alors oui, dans les autres actions, on a lancé il y a maintenant peu de temps une marque viande à l'herbe, donc qui fait référence à la marque Valeur Parc Naturel Régional que le parc déploie notamment sur les professionnels du tourisme, mais aussi l'artisanat d'art, hein, on a déjà pu l'évoquer. Depuis maintenant quelques mois, on propose aux éleveurs qui sont très impliqués, notamment sur les systèmes herbagers que j'évoquais tout à l'heure, de pouvoir rejoindre cette marque, qui est une marque nationale qu'on déploie sur l'Armorique et qui reconnaît les productions à l'herbe. Donc où les animaux sont quasiment toute l'année sur l'herbe et support de production de viande, soit en élevage bovin ou en élevage ovin.
Il n'y a pas un label lait à l'herbe. Enfin bon, après le lait c'est souvent à l'herbe quand même.
Alors effectivement, ouais, tout à fait. On réfléchit aussi à déployer cette marque sur des produits laitiers qui seraient assez typiques aussi du territoire du parc. Voilà, peut-être demain sur une production de fromage. On n'y est pas encore aujourd'hui. Il faut encore qu'on identifie les acteurs, enfin notamment les éleveurs, mais aussi voir les filières en aval. Voilà comment on peut travailler sur cette question. Mais voilà, il y a l'idée de reconnaître l'intervention de ces éleveurs et puis de montrer qu'ils sont tout à fait dans les valeurs que développe le parc sur son territoire.
Et le parc aussi, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, accompagne des agriculteurs, des porteurs de projets en tout cas, via l'espace test agricole.
Oui, tout à fait. On a bien vu qu'aujourd'hui, le profil des personnes qui souhaitaient s'installer en agriculture évoluait. On a de plus en plus de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, qui dans notre jargon sont appelées les NIMA, les fameux NIMA. ces personnes ont besoin d'autres accompagnements qu'on peut trouver aujourd'hui de façon assez classique au niveau de la formation initiale. Ils ont souvent peu de connaissances en local, quelquefois pas forcément les réflexes agricoles, on va dire. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces porteurs de projets, notamment sur le projet entrepreneurial en tant que tel, parce qu'effectivement, s'installer en agriculture, c'est créer une entreprise ou la reprendre. Donc il y a ces questions à intégrer. Et puis après, tout l'environnement technique pour pouvoir voilà, avancer. Donc il y a plusieurs dispositifs qui existent. Aujourd'hui, on a le parc est impliqué dans un espace test agricole sur le domaine de Ménesmeur, où aujourd'hui, deux porteurs de projets testent leur activité avant même de se lancer. Voilà,
dans élevage au vin, je crois, enfin pour le lait, non
c'est alors, élevage au vin pour la viande. Ouais, voilà, donc, et puis aussi un autre projet plus diversifié autour de la production d'œufs, mais aussi apiculture, champignons, etc. Quoi. Donc voilà, deux projets assez différents, mais voilà, qui se rejoignent aussi sur la nécessité de l'ancrage local, de la production et de la diffusion en circuit court derrière.
Donc, et ils sont accompagnés combien de temps
Alors en fait, ils ont la possibilité de rester jusqu'à 3 ans sur le domaine de Ménesmeur. Voilà, là, ça fait déjà presque 2 ans, enfin 2 ans pour l'une et presque 2 ans pour l'autre. Donc là, aujourd'hui, ils ont confirmé leur projet et ils sont davantage dans une recherche de foncier. Avis aux amateurs.
Et oui, c'est ça aussi la question.
Puisque c'est aussi une difficulté, on peut le dire, hein, d'accès au foncier agricole pour ces porteurs de projets.
Et que peut faire le parc en matière d'accès au foncier agricole ?
Alors aujourd'hui, on a des institutions, hein, on pense notamment à la SAFER, hein, qui sont bien présentes sur le territoire. De plus en plus, on essaye et on forme davantage les collectivités, les maires des communes pour comprendre finalement comment évolue le foncier sur leur territoire et comment ils peuvent éventuellement avoir quelques leviers aussi pour faire avancer ce foncier, être plutôt dans la veille, une veille vraiment dynamique et pas subir quelque part une évolution un peu inéluctable sur l'agrandissement de certaines fermes disparition de l'activité agricole. Donc là, on a prévu au mois de juillet des séances de formation, à la fois avec les services de l'État, avec la SAFER, pour qu'ils comprennent bien les outils qui sont en place aujourd'hui et voir demain quels peuvent être leurs leviers.
Il n'y a pas encore de projet de régie agricole municipale sur le territoire du parc que vous pourriez accompagner.
Enfin. Oui, c'est vrai. Alors, à toute petite dimension, je pense au cas de Saint-Rivoal, par exemple, où voilà, ils ont un projet qui avance maintenant, hein, qui n'est plus un projet d'ailleurs de potager pour alimenter leur cantine scolaire. Donc, on sait qu'on a des petits projets comme ça. Alors, quand je dis petits, ils sont vraiment porteurs d'espoir, hein, et vraiment intéressants. Après, à petite dimension, tout à fait. Voilà, on a effectivement un démarrage de régie. Après, à voir si c'est forcément la régie le meilleur système. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir se réapproprier un peu ces enjeux agricoles et alimentaires. Et c'est vrai que le levier de la restauration collective est intéressant. Alors, bien sûr, ça n'est pas le seul. Hein. Jeudi dernier, on évoquait que finalement, les enfants ne mangeaient que 12% de leur temps. Hein. Enfin, 12% de... pas de leur temps, pardon. 12% des repages à la cantine.
Ah oui,
hein. Donc, voilà, le plus gros du travail, il est quand même à faire à la maison, effectivement. D'où la sensibilisation aussi que le parc peut proposer. On a, par exemple, le site du domaine de Ménesmeur, hein, qui est bien connu des habitants du territoire, qui est aussi une belle vitrine des races domestiques bretonnes, hein, qui sont aussi intéressantes à valoriser, qui sont support aussi à des productions locales de lait, de crème, de fromage, de viande, voilà, avec des propriétés vraiment intéressantes. Donc ça, c'est vraiment une mission aussi que porte le parc. On a presque une trentaine d'éleveurs sur le territoire qui sont engagés sur ces races domestiques bretonnes qui reviennent en force. Et derrière, si on regarde bien, c'est bien souvent des systèmes herbagers, c'est bien souvent des circuits courts ou de la vente directe. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui est intéressant, sans que ça soit exclusif. Hein. On a aussi des races tout à fait conventionnelles qui sont dans ces mêmes systèmes. Mais voilà, il y a un petit focus, un petit point d'intérêt aussi. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à aller sur le domaine de Ménesmeur pour aller à la rencontre de ces races. C'est toujours intéressant.
Et des événements conviviaux, comme ce pique-nique qui arrive très bientôt. Le 14 mai.
Oui, tout à fait, le 14 mai, dimanche 14 mai, à Daoulas. Encore une fois, pour nous, c'est vraiment l'idée de mettre en avant les circuits courts hein, et la possibilité de s'alimenter en local. Donc, on propose un grand pique-nique sur Daoulas, sur les rives de la rivière.
Pendant le marché, en fait.
Pendant le marché,
le célèbre marché du dimanche matin.
Exactement. Donc, l'idée, en fait, c'est que les habitants qui le souhaitent fassent leur marché sur Daoulas et puis ensuite viennent le manger sur un grand pique-nique convivial, donc concocté soit leur propre sandwich ou ce qu'ils souhaitent d'ailleurs pour leur pique-nique. Oui. Voilà. Et puis on a aussi proposé pour ceux qui sont un peu moins organisés, encore que c'est important de réserver, de pouvoir avoir son pique-nique auprès de deux restaurants de Daoulas. Donc la faïencerie, donc avec le chef Yann Legrand qui a proposé un bol, un Armorica bol, bol salé et bol sucré, et puis aussi la crêperie La Mignonne qui propose une option crêpe, avec des produits locaux, notamment avec une très bonne saucisse de porc blanc de l'Ouest. Deux offres complémentaires au pique-nique qu'on peut élaborer soi-même.
Mais là, il faut réserver au mieux.
Donc, il faut réserver. On a décalé un petit peu parce que c'est toujours difficile de se projeter sur un pique-nique suivant la météo, etc. Mais en tout cas, vous avez jusqu'à demain, 10 mai au soir, pour réserver ces fameux boils qui peuvent être vraiment sympas, uniquement avec des produits locaux.
Et donc, le 14 mai à Daoulas, le dimanche. Eh bien, on va s'arrêter là puisque c'est la fin de l'émission. Merci Thibaut Thierry.
Merci à vous.